Je me demande à quoi ça ressemble tout ça.
Un peu à ce que tu viens de dire.
Ouais, un peu aux forces à la neurodiversité, n'est-ce pas?
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 4. Un petit neurobonus avec ça? Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, allô tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. La semaine passée, on a parlé de glossaire, on a parlé de notre petit neuro-Robert illustré, puis on s'est rendu compte qu'on n'a pas défini la neuro-inclusion, alors que c'est un terme qui est tellement fondateur dans tout ce qu'on fait, tous les trois. Donc, on trouvait important de repartir sur cette nouvelle définition, surtout qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui. Donc, la neuro-inclusion, ben, moi, c'est un terme que j'utilise depuis quand même, depuis 2019. On avait inventé, entre guillemets, ce terme-là, Cindy Lamontagne et moi. Puis finalement, ben, il y a plein d'autres gens qui l'ont inventé aussi, fait qu'il y a plein de gens qui en parlent aujourd'hui. Mais, Fran, t'avais une définition que j'aimais vraiment beaucoup.
Oui, ben, allô tout le monde. La neuro-inclusion, déjà, on l'a dit, c'est un néologisme, c'est un nouveau terme donc qui implique l'inclusion neurologique. Donc, c'est toutes ces pratiques inclusives qu'on a un peu survolées à travers nos derniers épisodes et qu'on va continuer de survoler, qui permettent d'accueillir la diversité invisible qui est la diversité cognitive. Donc, c'est toutes les pratiques et les environnements et adaptations qu'on met en place autour de certaines personnes pour leur permettre de faire ressortir certaines forces qui, dans un environnement inadapté, ne ressortiraient pas nécessairement, mais aussi de diminuer certains obstacles qui sont plus intérieurs à une personne, là, comme par exemple l'hypersensibilité. C'est pas quelque chose qui est visible, mais qu'un environnement adapté, donc une pratique neuro-inclusive, va permettre de mieux moduler pour avoir accès au plein potentiel d'un individu neurodivergent. Mélissa, allô?
Allô, comment allez-vous? Je suis contente d'être là encore.
Ça va bien.
On est enthousiaste, on s'est parti tout de suite, puis faut quand même te saluer.
J'étais là, cachée en arrière.
Ouais.
Donc, Solène, tu disais qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui de la neuro-inclusion. Veux-tu mettre la table sur notre sujet du jour?
Oui, mais en fait, la neuro-inclusion, pour nous, c'est super important parce qu'on pense forcément que c'est un avantage pour les employeurs, en l'occurrence. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait vous parler de comment c'est un avantage, un bénéfice, une force, un geste extraordinaire que de faire de la neuro-inclusion. Donc, en fait, de voir comment est-ce que ça peut être un bénéfice ou un avantage pour l'employeur, pour les employés, pour les collègues, pour tout le monde finalement, même pour les clients. Donc, c'est notre sujet du jour. On pourrait peut-être commencer par une statistique, on aime les statistiques. Il y a quand même 99% des employés autistes qui sont aussi bons ou meilleurs que la moyenne des employés pour la contribution au moral de l'entreprise. C'est quand même pas rien, 99%. Cette statistique-là, on la sort d'une étude qui a été faite par l'Université de Colombie-Britannique avec les données d'un programme qui s'appelle Prêt, disponible et capable. Donc, c'est un programme pan-canadien qui favorise l'insertion socio-professionnelle professionnelle plus qu'autre chose, des personnes autistes et avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est quand même intéressant. 99% de ces employés-là sont aussi bons meilleurs pour le moral.
Ben oui, c'est impressionnant. Puis, tu sais, oui, bon, nous, on prêche pour notre paroisse, là. On parle de la neuro-inclusion comme étant une force et un avantage, là. Mais c'est aussi parce qu'on veut, ben, pas nécessairement vous en convaincre, mais on veut vraiment amener cette perspective-là sur le marché du travail, de voir comment, dans un ratio très rationnel de coûts-bénéfices, ben, ça profite aux organisations, aux employés, aux employeurs et à notre société aussi parce que ça va contribuer à moduler notre discours autour de la neurodiversité que de favoriser l'inclusion au travail.
C'est ça, parce que quand on en parle, tu sais, de la neuro-inclusion, c'est pas de dire « OK, il y a toutes ces personnes-là qui sont disponibles puis qui n'attendent que de travailler. » C'est des personnes qui sont déjà dans les organisations, mais qui, comme on l'a déjà dit, souvent ne vont pas nécessairement le mettre de l'avant, vont masquer, puis c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir donner leur plein potentiel en emploi. Fait que de un, oui, c'est d'attirer les personnes qui ne sont pas en emploi, puis qui sont neurodivergents, puis qui ne trouvent pas leur place en organisation, mais c'est aussi de laisser la place à ceux qui sont déjà chez vous de s'épanouir.
Oui, mais en fait, il y a aussi un gros avantage en matière de pénurie de main-d'œuvre d'embaucher ces gens-là, parce que Oui, on parle de ceux qui sont déjà en organisation, mais il y a un nombre astronomique de personnes qui ne sont pas en emploi, qui sont compétentes, qui ont des formations ou en fait qui ont des compétences, puis qui sont chez eux, dans leur sous-sol, à attendre. Ben, peut-être pas à attendre, ils font quand même plein de choses, mais à vouloir aller travailler. Donc, c'est un bassin de main-d'œuvre qui est inexploité, puis ça serait vraiment pertinent d'aller puiser là-dedans.
Oui, puis bon, ben, je devance un peu un point, là, on va le mettre au-dessus, mais je pense que si on parle de la pénurie de main-d'œuvre, il y a deux choses. Déjà, avant la pandémie, quand je regarde, là, c'était la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui, en 2019, sortait un rapport qui disait qu'il y allait avoir besoin de près de 434 000 travailleurs dans les prochaines années. Puis là, il y a la pandémie qui s'est ajoutée à ça. Puis je sais pas si dans vos milieux de travail, là, cher auditoire, vous le vivez, mais personnellement, je travaille dans le réseau de la santé et la crise, elle est partout, c'est impressionnant. Donc, je crois que c'est plus que le meilleur moment que de s'intéresser à un bassin de travailleurs qui est sous-utilisé dans son plein potentiel. Tu sais, quand on y pense, dans ces statistiques Canada qui relevaient que, je pense, c'est près de 22 % d'adultes, donc de 15 ans et plus, qui vivent avec au moins une incapacité. C'est un méga bassin de travailleurs qui est donc en situation de handicap. Vous ne voyez pas que je fais du quote-unquote parce que ça va toujours dépendre de leur environnement. Mais ce serait aberrant que de ne pas observer cette alternative que d'être neuro-inclusif. En tout cas, il me semble.
Oui.
Mais peut-être suis-je déjà convaincue.
Oui, mais en fait, il y a le patronat du Québec qui a fait une formation avec le ROUSEF, donc le regroupement des organismes d'employabilité. Donc, ils ont fait une formation pour les employeurs qui leur expliquait comment c'était un avantage, en fait, d'aller vers l'inclusion puis des personnes en situation de handicap. Donc, il y a peut-être ça à aller explorer. Donc, il y a quand même des ressources, puis il y a quand même des avantages qui sont assez sérieux dans ce point de vue-là.
J'aime comment aujourd'hui, on est des statistiques nerds.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ben je pense que c'est important, tu sais, pour avancer les bénéfices comme ça, tu sais, on veut... Oui, on veut prêcher pour notre paroisse, mais on veut le faire de façon concrète et intelligente, puis on veut convaincre les employeurs à quel point c'est important. Fait que
oui.
De ne pas avoir de statistiques, ça serait un peu d'avoir l'impression de pelleter des nuages, puis on n'aime pas ça, pelleter des nuages, nous autres, parce qu'on est des nerds, fait qu'on va s'assumer là-dessus.
Oui, mais c'est aussi qu'il y a des faits, ça a été prouvé, on sort pas ça de notre chapeau, là. Il y a des études qui ont été faites, et puis c'est vraiment un avantage, donc c'est pas à négliger tout ça.
Exact. Puis quand on parle de neuro-inclusion, donc on l'a dit, on parle de pratiques inclusives, on parle d'individus neurodivergents, et je crois qu'il faut qu'on aborde un petit peu le profil hétérogène qu'un individu neurodivergent peut avoir, parce que ça va contribuer à la façon de mettre en place les pratiques neuro-inclusives. Mélissa, veux-tu nous parler du spiky profile?
Oui, le spiky profile, puis on parle pas des cheveux avec du gel en spike des années 90 à moitié bleaché, là.
Je peux-tu juste envoyer une petite pensée à mon frère avec ses cheveux jaunes dans secondaire 5, s'il vous plaît?
Oh, il y avait-tu des spikes ou les nœuds ramènent?
Non, il y avait des spikes. Je pense qu'on aurait pu mettre un verre sur ses cheveux. Puis là, en ce moment, il doit soit maïr, soit rigoler, un des deux.
Entre nous, on rigole. fait que oui, l'hétérogénéité des profils, en fait... C'est Nancy Doyle, Dr. Nancy Doyle, qui est la CEO de Genius Within en Angleterre, Grande-Bretagne. Hey, pour de vrai, je suis toujours mélangée s'il faut dire Angleterre ou Grande-Bretagne, mais je sais que ça inclut aussi l'Irlande. Non, même pas.
Oh, puis il y a le Royaume-Uni aussi, attention.
Hey, sérieux, OK. On oublie ça.
Nous ne sommes pas un podcast de géographie, OK?
Cette région du monde.
Cette région du monde où il y a une reine, là.
En Europe, là. On va parler du spiky profile. On n'est pas forte dans tout, hein. La géographie, clairement pas notre grande force, ça a l'air.
Non, mais pour de vrai, j'adore la géographie. Puis là, j'ai vraiment juste eu une petite bulle parce qu'à un moment donné, j'avais pogné un hyper focus puis j'avais décidé d'apprendre par cœur tous les pays du monde.
Oh, wow!
C'était comme un genre de jeu en ligne puis il fallait que tu les tapes toutes en 12 minutes. Et j'ai réussi.
Wow!
Wow!
Ouais. Puis après ça, ben, j'ai arrêté puis là, je m'en rappelle plus. Fait que des fois, ça arrive comme ça, qu'on pogne des bulles puis qu'on part en hyper-focus. Fait que retour maintenant. Bye-bye, pensée arborescente.
Moi, je suis sur Google en ce moment puis je regarde la différence. En fait, c'est juste qu'il y a tout le temps un plus grand clôtre, là, finalement. En Angleterre, c'est plus petit, la Grande-Bretagne, puis après le Royaume-Uni.
C'est ça, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure. OK.
Exactement. OK, excusez. Je ne divergeons plus.
Fait que oui, bon, le spiky profile, selon Dr. Nancy Doyle, en fait, c'est que quand on fait l'évaluation du QI, Le QI moyen là, de la population se situe autour de 100. Puis quand on va faire une évaluation d'une personne neurotypique, ben à travers les champs qui sont évalués dans le QI, dans le fond, c'est que la variabilité des forces va être relativement homogène. Fait que les forces vont se situer autour à peu près de la même axe horizontal, des fois plus fort, des fois plus bas, mais relativement homogène. Une personne neurodivergente, on va voir un spiky profile. Fait que ça veut dire que dans cette, justement, répartition des forces-là, on va avoir des forces qui vont être très élevées, donc, tu sais, qui vont arriver avec des scores au-dessus de 120, qui peuvent aller, tu sais, jusqu'à 150. Le prix maximum est de 165, ce qui est extrêmement, extrêmement rare, soit dit en passant. Puis les défis des personnes vont être beaucoup plus bas dans l'axe vertical, dans le fond, de l'évaluation du QI.
Je peux-tu d'ailleurs en profiter pour dire, là, les tests de QI sur Internet qui vous disent en 15 minutes que vous avez un QI de 237, là, s'il vous plaît, soyez prudent, OK? C'est vraiment pas fiable et ce ne sont pas des tests de QI. Voilà.
Non, c'est un petit peu plus compliqué.
Non, c'est ça.
C'était mon avertissement sur la psychopop Internet. Merci, bonsoir, Mélissa.
Ouais. Eh bien, je pense que Le seul petit test Internet qui peut valoir la peine pour quelqu'un qui voudrait savoir s'il est doué pour avoir peut-être un indicateur de peut-être que, c'est le test de Mensa pour voir si ça vaut la peine de payer pour faire l'examen de Mensa. Mais encore là, c'est pas fiable, surtout si c'est un profil hétérogène en douance, là, ce sur quoi je reviendrai dans deux secondes.
Encore là, Mensa, exactement, ils sont contestés d'une certaine façon parce qu'ils ont une certaine vision de la douance qui n'est pas universellement acceptée parce que la douance n'est absolument pas universellement définie.
Exactement. Fait que quelqu'un, par exemple, qui aurait un déficit en termes de mémoire de travail pourrait ne pas passer à Mensa, même si il y a tous les autres critères, là.
Genre Fran.
Genre moi! Il n'arrive pas à manipuler de l'information mentalement et qu'il doit l'écrire partout, tout le temps.
Ouais, mais puis je pense, Mensa, c'était combien déjà? C'était 140, le QI, pour rentrer ou 130?
Il faut que tu sois dans les deux percentiles, je pense. 98e percentile, excuse-moi, là, bref.
Fait que c'est 130.
Ouais. C'est 130.
OK. Fait que de retour au spiky profile maintenant, c'est ça, souvent ce qui va se retrouver plus bas dans l'axe vertical, dans le fond, d'évaluation du quotient intellectuel, ça va souvent être en lien avec les fonctions cognitives, avec la capacité à gérer le temps, gérer les priorités, la capacité d'autorégulation, la capacité de justement la mémoire de travail. Puis tout ce qui va se retrouver très élevé dans ce spiky profile, mais c'est toute la notion de la créativité, la notion verbale, la notion de visio-spatiale. Entre autres, puis après ça, tu sais, ça va varier selon les personnes. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui arrive, c'est que justement, les personnes qui ont un profil neurodivergent vont avoir des très, très, très grandes forces comparées à la norme, mais vont avoir des défis qui sont beaucoup plus grands que la norme. Fait qu'à ce moment-là, quand on parlait justement de neuro-inclusion, ce qu'on voulait dire, c'était de mettre en place des mesures qui vont permettre de favoriser l'expression de ces forces-là au travail au bénéfice de la personne, puis au bénéfice de l'employeur, puis de réduire la charge qui est déposée sur les défis de la personne. Fait que, tu sais, si par exemple, il y a énormément de tâches administratives à faire dans un poste, puis que la personne elle a des difficultés à ce niveau-là, mais qu'elle a des grandes forces en termes de créativité, mais est-ce qu'il y a moyen de réaménager le poste pour favoriser les forces, puis s'assurer que la personne ne soit pas épuisée à la fin de sa journée, puis que, comme on disait dans le dernier épisode, finisse sa journée en petite boule chez eux parce qu'elle a pris tout son jus de cerveau pour quelque chose qui, pour elle, la met en situation de handicap, qu'elle le dise ou non.
Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'est pas parce que la douance n'égale pas la réussite à l'école, entre autres à cause de ça, parce que on peut être super bon dans une chose puis être complètement mauvais dans un autre. Si je prends l'autisme, on peut être très, très bon dans certains domaines, puis après ça, arriver dans une situation sociale, puis oups, c'est un bloc total. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire de généralisation en matière de douance.
C'est ça. Puis en termes de l'autisme, justement, tu sais, ce que j'avais lu, c'était que le spiky profile, on en parle beaucoup pour l'autisme, puis on va en parler aussi beaucoup par rapport aux champs d'intérêt, parce que les personnes autistes vont souvent avoir des champs d'intérêt très focussés, là. Donc, si ça les intéresse pas...
Ouais, des intérêts spécifiques qu'on parle.
Ouais, c'est ça.
Ou des intérêts restreints, comme la communauté scientifique le dit, là, mais on n'aime pas ça, restreint, c'est pas vrai. C'est spécifique.
C'est ça. Puis, tu sais, dans le cas, par exemple, de personnes douées ou de personnes TDAH, souvent, ces intérêts-là vont être très variables dans le temps. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une accumulation de hobbies extrêmement différentes dans leur sous-sol peut être représentatif là, de ça, justement, de la variabilité des intérêts puis de comment l'hyperfocus va décider de se manifester. Là.
Oui, tout à fait.
Fait que, tu sais, ce spiky profile-là, L'autre chose qui est intéressante peut-être de ramener par rapport à ça, c'est de dire, tu sais, que chacun des profils de neurodiversité, en fait, va de façon assez générale avoir ses propres forces. Puis là, ici, on veut pas faire de caricature puis de dire, bon, mais toutes les personnes dyslexiques sont ci puis toutes les personnes autistes sont ça. Mais de façon générale, il y a une certaine tendance qui se remarque. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un trouble 10, puis là, encore, je dis trouble 10 parce que c'est ça qu'on dit, même si on n'aime pas ce terme-là. C'est des personnes qui vont avoir une capacité d'innovation très avancée, des capacités verbales excellentes aussi, une capacité de penser visuellement, créativité, une vision mécanique 3D également, très facile.
Oui, je vais ajouter cette créativité-là. La créativité puis l'innovation, ça émerge de quand on a plein de contraintes. Quand tu es une personne neurodivergente qui évolue dans un monde neurotypique où le monde n'est pas nécessairement conçu autour de tes besoins, la créativité, ça devient pratiquement une stratégie de survie, voire de performance et d'excellence. Tu la développes avec le temps parce que c'est ton mode de vie au final.
C'est ça. Puis tu sais, de plus en plus avec les avancées scientifiques, tu sais, par exemple, dans le cas de la douance, il y a des études qui ont été faites en résonance magnétique, là, j'oublie le terme là, de la technologie qui a été utilisée, mais tu sais, qui voit comment les chemins neuronaux sont faits différemment. Tu sais, le cerveau est plastique, fait qu'à ce moment-là, tu sais, le fait d'être neurodivergent va faire que tes circuits neuronaux puis la façon dont les secteurs de ton cerveau s'activent vont être différents.
Oui, bien, c'est un peu comme on dit que la neurodivergence ou l'autisme ou whatever, c'est une autre façon de calibrer ton cerveau. C'est on parlait des systèmes d'exploitation comme étant, tu sais, Windows, ben Linux, ben tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est un peu comment ton cerveau va être programmé puis va avoir différents circuits. C'est un peu...
Exactement. Puis tu sais, si je continue rapidement à travers des différentes forces, là, des différents profils, c'est quelqu'un TDAH, on sait, c'est des personnes qui sont très énergiques, passionnées, la capacité d'hyper-focus est phénoménal. La créativité également. Les syndromes Gilles de la Tourette, c'est des capacités d'observation très pointues, des capacités de contrôle cognitif aussi, ce qui pourrait être surprenant, mais le fait justement d'avoir autant de tics à contrôler fait qu'ils ont une grande capacité de contrôle sur d'autres aspects sur lesquels ils peuvent avoir le contrôle, justement. Quand on parle aussi de l'autisme, la capacité de concentration, l'attention aux détails fins, la capacité de garder en mémoire aussi est très forte.
C'est un exemple de comment ça peut représenter un avantage, là, la neurodivergence. Par exemple, j'avais lu sur une personne qui a un TDAH qu'une de ses mesures adaptatives, c'est simplement d'avoir un réaménagement horaire pour ne pas avoir à prendre de pause, parce que le fait d'être en hyper-focus lui permettait d'être ultra-productive et les pauses, au final, étaient une interruption. Puis je pense qu'il y avait des études qui disaient que quand tu te fais interrompre dans ta concentration, ça prend 20 minutes et atteindre le même...
À peu près, ouais.
À peu près le niveau de concentration. Mais c'est fou, cette personne-là, en bout de ligne, c'était très profitable à l'organisation et ils avaient trouvé un équilibre parce qu'elle finissait un peu plus tôt sa journée ou elle compensait autrement pour pas non plus être surexploitée dans le milieu de travail, mais c'était simplement de vivre et bénéficier de l'hyperfocus comme d'un moyen de productivité et créativité.
C'est ça, puis quand on parle aussi du fait qu'il y a tellement de diversité à l'intérieur même de la neurodiversité, tu sais, deux personnes qui ont un TDAH pourraient avoir des besoins différents comme ça, tu sais, quelqu'un qui entre en hyper-focus puis qui a besoin justement d'un long stretch comme ça, c'est parfait. Il y a d'autres personnes qui font instaurer la méthode Pomodoro, fait qu'il faut s'assurer qu'il y ait des pauses de 25 minutes pour pouvoir bouger puis s'activer, fait que c'est de s'assurer qu'on est capable de comprendre comment la personne fonctionne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des difficultés au niveau de ses fonctions cognitives à démarrer une tâche? Si c'est quelqu'un qui a de la difficulté à démarrer, à ce moment-là, probablement qu'un stretch est plus rapide, mais si c'est quelqu'un qui a de la difficulté à garder sa concentration pour faire perdurer la tâche, bien là, Pomodoro devient intéressant. Fait que ça, c'était un peu un wrap-up extrêmement rapide là, sur les grandes forces des différents profils at large. Mais c'est sûr qu'on va revenir, on vous avait dit qu'on aurait des invités, fait qu'on va revenir avec des invités, puis on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur là, des profils, puis des forces, puis de comment on peut accompagner ces personnes-là. Puis avant de wrap-it up un peu sur le spiky profile, je voulais juste ramener une dernière petite... nuance, parce qu'il y a des nuances partout, on s'entend. Quand on parle de douance, il y a cette particularité-là. Tu sais, l'autre fois, on disait justement qu'il y avait une particularité dans le sens que c'est tout des diagnostics sauf la douance qui, elle, est une évaluation. Bien, en termes de douance, il y a deux profils, en fait, qui semblent se dessiner selon les avancées scientifiques là, qu'on a jusqu'à présent, là, qui est le profil hétérogène, le profil homogène, qui peut ressembler à peu près, là, quand on regarde là, le... le livre philo-cognitif, eux vont parler de philo-complexe puis de philo-laminaire. Fait que quand on parle de spiky profile, on va l'appliquer au profil hétérogène, au profil philo-complexe. Souvent, ben en fait, presque exclusivement au profil TWICE également. Fait que quelqu'un qui est doué et TDAH en même temps va avoir le spiky profile, puis quelqu'un qui va être doué THPI, HPI, sans profil hétérogène, lui, son spiky profile va être beaucoup plus, en fait, va être beaucoup plus proche de la norme, fait qu'il n'y aura pas une grande variation entre les forces puis les défis, mais ça va être à un niveau plus élevé sur l'axe vertical dans le fond du QI, fait qu'on va aller chercher des QI de 130 et plus, mais avec des forces assez homogènes, mais ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas des difficultés ailleurs. Là, on parle vraiment du QI, mais on peut parler aussi de tout ce qui est le quotient émotionnel qu'on n'est pas capable scientifiquement de valider ou d'évaluer, mais ces personnes-là pourraient avoir des difficultés en termes de relations sociales avec les autres, d'intelligence émotionnelle, etc.
Oui, parce qu'en termes de nuances, le quotient émotionnel peut aussi être influencé par le contexte et la culture, donc qu'est-ce qui est bien vu comme étant intelligent émotionnellement dans un contexte n'est pas toujours dans un autre.
Exactement. Fait que c'était notre module sur le spiky profile. Je me sentais tellement en train de donner un cours, là.
Oui, un peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces avantages-là, ces traits-là, très généraux qu'on vient d'énumérer, en fait, c'est souvent recherché par les employeurs. Moi, c'est mon cas, je suis payée parce que je dis les choses telles qu'elles sont et je vais être un peu trop franche des fois. Puis, mais les gens trouvent ça un avantage, comme étant un avantage parce que je vais dire les choses telles qu'elles sont, je vais pas vouloir les flatter dans le sens du poil. Puis, je vais dire vraiment mon opinion telle qu'elle est. Donc, c'est quelque chose que mes clients trouvent intéressant. Ils vont payer aussi pour mon sens du détail parce que je vais trouver la petite bibitte que personne n'a vue. Puis, je vais porter une attention à chacun des détails, justement. Donc, c'est quelque chose qui est recherché par les employeurs.
Oui, puis ça amène très, très bien la transition suivante, là, parce que dans une ère de robotisation du monde du travail où beaucoup de types d'emplois peuvent être automatisés, ben, l'humain et les forces humaines vont ressortir comme des avantages dans un avenir proche.
Oui, justement, parce que, tu sais, en termes d'évolution du monde du travail, tu sais, on voit une évolution dans les compétences qui sont recherchées. T'sais, on a passé de l'ère du taylorisme, là, où ce qu'on travaillait de façon très manuelle. Puis plus que ça évolue avec l'arrivée de l'intelligence artificielle puis l'arrivée de l'ère du travail 4.0, on cherche des personnes qui vont être capables de penser hors de la boîte. On va parler de l'économie du savoir. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de connaissances au niveau des entreprises, de l'intelligence collective d'entreprise qui se retrouve dans les cerveaux des personnes. Puis le fait d'avoir une diversité à ce niveau-là, c'est ça qui amène de la richesse aux entreprises. Puis justement, tu sais, par rapport à ça, ce que je trouvais intéressant d'amener, c'était le Forum économique mondial, pour le traduire comme ça, le World Economics Forum, arrive toujours avec ses prédictions des compétences qui seront les plus recherchées par les employeurs dans les années à venir. Puis quand on parle des top skills qui vont être recherchés pour 2025, selon toujours le World Economics Forum, si je vous dis le top 5, là, on a pensée analytique, innovation, capacité active d'apprendre et d'avoir des stratégies d'apprentissage, capacité de résoudre des problèmes complexes, capacité d'avoir une pensée critique et analytique, et le cinquième, créativité, originalité et initiative. Je me demande à quoi ça ressemble tout ça.
Un peu à ce que tu viens de dire.
Ouais, un petit peu aux forces en neurodiversité, n'est-ce pas?
Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la neuro-inclusion, là, on en parle beaucoup sous l'angle d'inclure les personnes neurodivergentes, mais en bout de ligne, c'est d'inclure tout le continuum de la diversité cognitive. Donc, ça inclut les personnes neurotypiques. Puis, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, c'est pas que les forces que Mélissa vient d'énumérer n'appartiennent qu'à la communauté neurodivergente. Loin de là, c'est qu'elle peut être exacerbée chez la communauté neurodivergente avec le bon contexte. Mais de mettre en place des pratiques neuro-inclusives va permettre d'y avoir accès chez tout un chacun et chacune. Donc, de vraiment aller mobiliser la créativité de tout individu, peu importe son profil au final.
C'est ça. Puis par exemple, justement, quand on parle de douance, mais tu sais, la douance, on parle de manifestation de la douance. Fait que tu sais, ça prend un contexte qui permet de faire émerger cette douance-là. Si on n'a pas le terreau assez fertile pour permettre à la personne de manifester sa douance, bien, on n'aura pas accès à toutes ces compétences-là qu'elle a avec le QI qu'elle a, puis toutes les forces qu'elle a.
Oui, ben, ça me fait penser à justement le fait que je dis les choses telles qu'elles sont. Je viens de vous dire que c'est quelque chose pour lequel je suis payée, mais c'est exactement la même chose qui faisait en sorte que j'avais des problèmes disciplinaires à un autre de mes emplois. Ça dépend du contexte. Puis c'est sûr qu'entre les deux, il y a eu du temps et il y a eu le fait que j'ai travaillé sur la façon dont je dis les choses. Donc, l'inclusion, c'est pas, on s'entend, c'est pas seulement à sens unique, ça doit être à double sens. On doit aussi faire, nous, en tant que neurodivergents, un bout du chemin pour atteindre une meilleure compréhension de part et d'autre. C'est, si je disais les choses telles qu'elles sont, sans mettre un peu un minimum de gants blancs, ben ça passerait pas non plus. Là. Je serais pas appréciée par mes clients.
Non, c'est ça, c'est une co-responsabilité, puis c'est un peu comme je parlais avec quelqu'un, puis que je nommerais pas, qui est pas aucune de nous, là, ici, là. Rassurez-vous. Mais tu sais, je parlais avec quelqu'un dans mon entourage qui est très, très franche, mais tu sais, dans le sens qu'elle pense pas avant de parler, là. Puis des fois, elle dit des affaires, puis je suis comme, sérieux, là, t'aurais juste dû rien dire, ça n'apporte absolument rien de bon, puis c'est juste méchant, tu sais. Mais elle me dit, ouais, mais tu sais, j'ai un TDAH, fait que je suis pas capable de le contrôler. Je suis comme, mais c'est pas une raison d'être méchant ou de blesser. Fait que tu sais, ce qu'on dit, c'est pas non plus d'accepter tout. Puis c'est, comme Céline dit, c'est vraiment une co-responsabilité d'être conscient de soi, conscient de ses forces, puis de trouver des mécanismes aussi en fonction de ses forces pour améliorer les défis qu'on a.
Oui, parce que la neurodivergence n'est pas une excuse. Loin de là, je pense que c'est quelque chose que j'entends, moi aussi, des fois, là, de « Ah, ben là, à vouloir tout inclure, on accepte tout et n'importe quoi. » Puis d'autre part, des gens qui vont se déresponsabiliser ou bien qui vont, tu sais, qui vont se dire « Je suis mon profil neurodivergent. » On est tous bien plus complexes que ce profil-là. Puis l'inclusion, on le dit, c'est une co-responsabilité, c'est de la réciprocité. La société, c'est du vivre ensemble. Et à partir du moment où on est en interaction avec quelqu'un, il y a nécessairement une espèce de valse adaptative qui se fait, et que ce soit entre les différents profils, mais aussi entre les différentes humeurs du moment, les expériences, l'éducation. Je veux dire, on est constamment en adaptation un petit peu passive aussi, là.
Oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que par la personne neurodivergente, des fois, elle ne sait pas non plus l'impact de ses paroles ou de ses gestes ou de ses actions. Faut aussi faire le bout de chemin de lui expliquer, ben, quand tu me parles comme ça, je ressens ceci et voici comment t'aurais pu me le dire. Puis, tu sais, faut donner un déclencheur pour qu'elle travaille sur elle également. Donc, faut pas prendre pour acquis que c'est que la personne a choisi de s'assumer comme neurodivergente ou enfin de mettre de l'avant sa neurodivergence. C'est peut-être aussi qu'elle ne réalise pas l'impact de ses actions.
Non, c'est ça. Puis c'est justement ça qu'on va travailler quand on travaille en coaching, puis qu'on travaille idéalement de pair avec une stratégie de co-coaching gestionnaire employé neurodivergent, de dire, OK, toi, en tant que personne neurodivergente, comment tu fais ton travail? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes défis? C'est quoi tes forces? Comment est-ce qu'on capitalise sur tes forces? Puis après ça, avec le gestionnaire en co-coaching, le rôle du coach devient quasiment presque un rôle de médiateur, c'est de créer cet environnement sécuritaire-là pour que de part et d'autre, les personnes énoncent leurs besoins puis énoncent aussi leurs ressentis. Fait que si le gestionnaire dit, tu sais, quand ça se produit, ça a tel impact sur moi, ça a tel impact sur l'équipe. Donc, tu sais, je donne cette rétroaction-là dans un environnement sécuritaire. Puis de l'autre côté, l'employé peut dire, tu sais, quand tu, par exemple, passes en arrière de moi, puis tu checkes mes fautes dans mon écran, puis tu me les pointes à haute voix, bien moi, ça me rend inconfortable, puis ça fait que j'ai honte devant mes collègues que tu fasses ça. Fait que les gens peuvent communiquer de cette façon-là autour d'un objectif commun.
Ouais, ben moi quand j'étais intervenante, je trouvais que j'étais une traductrice. Donc vraiment ce que tu viens de dire, je trouvais que j'étais une traductrice ou une facilitatrice. Mais coaching, c'est la même chose. Mais on a besoin souvent de ce rôle-là. Ça peut être un coach, mais ça peut être aussi un conseiller en emploi qui fait ça. Donc à l'intérieur des CEMO, les services d'employabilité de la main-d'œuvre. Donc il y a différentes personnes et ressources qui permettent de faire ce rôle-là, mais clairement le coach et un net avantage
là-dessus.
Oui, puis
là, je fais une observation purement anecdotique, aucune donnée à l'appui, là, vraiment de mon expérience personnelle. Ce que je trouve autour de moi en communauté, c'est que c'est encore difficile pour quelqu'un de nommer ses besoins. On a souvent cette impression que ça va déranger, ou à partir du moment où quelqu'un va nous nommer ses besoins, des fois, on le prend personnel ou on le vit comme une remise en question de la personne qu'on est, alors qu'en bout de ligne, ben non, c'est juste de s'adapter, de se comprendre, de se connaître, mais on n'ose pas nommer. Des fois, on reçoit difficilement les besoins des autres.
Oui, bien, et tu sais, dans la communication, il y a souvent, il y a la personne qui va émettre, puis il y a la personne qui reçoit, puis entre les deux, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est pas quelque chose de personnel, c'est juste une question de perception, puis de faire attention à comment on émet le message, puis que peut-être que le message, bien, il a été teinté par ce que la personne a vu ou a ressenti, ou, tu sais, donc, c'est vraiment de communiquer, puis de se nommer les choses, puis de pas effectivement pas le prendre personnel parce que ça peut être de plein de sources. C'est ça, la communication.
C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de tout ça, ça me fait juste réaliser aussi que, tu sais, toutes ces forces-là, puis ces faiblesses, ben, faiblesses ou défis-là qu'on mentionne, tu sais, depuis le début, c'est pas, ça vient pas avec un manuel dans le cerveau de la personne neurodivergente qui dit, moi, mes forces sont ci, puis moi, mes lacunes sont ça. Dans la plupart du temps, les gens ne le savent même pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diagnostic, puis, tu sais, on en a parlé, là, de ça, de dire que, tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à avoir de diagnostic. Ben, dans des cas comme ça, la personne, elle sait qu'elle est fatiguée, elle sait qu'il y a des affaires qui ne marchent pas, mais elle ne sait pas c'est quoi, elle ne sait pas c'est quoi ses forces, elle ne comprend pas. Elle comprend pas comment elle fonctionne, puis c'est pour ça aussi que moi, je voulais aller en coaching parce qu'il y a un énorme besoin là-dessus pour aider ces personnes-là à découvrir leurs forces puis à traduire leurs besoins à une personne neurotypique.
Ouais, des fois, on ne sait même pas que c'est différent des autres. Il y a plein de choses que je savais vraiment pas que les gens ne pensaient pas comme moi. Ça s'appelle j'ai le terme qui m'échappe en ce moment, mais la théorie de la pensée, voilà. Donc, on ne sait pas que l'autre va penser différemment de nous et on va pas penser qu'on est différent des autres, c'est normal. Donc, des fois, on sait même pas que, comme par exemple, le fait que je porte attention aux détails, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être quelque chose que les autres font moins que moi, puis c'est seulement avec mon diagnostic que j'ai fait « Hey, c'est vrai, c'est une de mes forces, puis c'est quelque chose que les autres ont un peu moins, donc autant capitaliser là-dessus. »
Oui, c'est ça, c'est tellement humain, tu sais, notre réalité devient comme un fait, alors qu'en bout de ligne, il y a tellement d'interprétations, puis nous, c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on sait, mais c'est là où l'introspection, apprendre à se connaître, rentre en ligne de compte, mais c'est pas évident à faire. Des fois, tout seul, toi, Mélissa, ça a été via le coaching que t'as été chercher cette capacité à faciliter. Solène, toi aussi, tu l'as vécu avec ton expérience. Moi aussi, en relation d'aide, j'ai vraiment appris à des moments à mettre des mots sur ce que je percevais chez l'autre personne en face de moi parce que je voyais que, pour moi, je voyais quelque chose ressortir, mais la personne n'en avait pas nécessairement conscience. C'est aussi pour ça que j'ai été chercher la formation Profil Nova parce que je trouve ça tellement intéressant. Ça donne un langage autour de se connaître, ses forces, ses modes de communication. Mais en ligne, c'est pas acquis. On peut pas prendre pour acquis que tout le monde se connaît aussi bien l'un que l'autre. Là.
C'est ça, puis des outils comme ça, comme toi tu travailles avec Nova, moi je travaille avec VIA, tu sais, ça permet de ressortir justement les forces puis les caractéristiques de la personne puis d'engager un dialogue autour de ça pour pas nécessairement chercher à l'aveuglette c'est quoi ses forces, mais chercher, bon ben voici les résultats puis dans ta réalité c'est quoi puis d'en discuter. Puis avec le gestionnaire, de la même façon que la personne neurodivergente ne sait pas que tout le monde ne pense pas comme elle, ben la personne neurotypique qui par exemple est gestionnaire, ben lui non plus, il ne sait pas tant que tu ne dis pas que toi, tu as de la difficulté avec ça ou que ça te crée une certaine émotion quand il réagit de telle façon ou, tu sais.
Oui, ben c'est ça, les outils psychométriques, c'est super intéressant parce que ça nous donne des mots, ça nous donne un cadre de référence. Je pense que la limite des fois, c'est que, on aime, je pense, on aime parler de nous, là. J'avais même vu une étude à un moment donné que ça ouais. J'ai le mot « solliciter » en tête, mais c'est tellement pas « solliciter », mais ça stimule la création ou le parcours de certaines molécules neurotransmetteurs. Là. Bref, c'est agréable de parler de soi. Donc, ces outils-là nous font du bien, mais je crois que leur défaut, c'est de les voir des fois comme une réponse. Moi, je les vois plutôt comme une porte d'entrée, une porte d'ouverture du dialogue, et c'est là que ça devient intéressant. Il ne faut pas les voir comme une façon de se catégoriser, mais bien comme une façon de se donner un cadre de référence.
Oui, il faut avoir un langage. Il y a souvent, moi, il y a plein de choses sur moi que j'ai apprises en lisant des témoignages, puis en faisant, je suis comme ça moi aussi, puis voici les mots pour décrire ce que je ressens, ce que je vis, ce que je suis. Donc, c'est de là, ces outils-là que vous utilisez sont justement des outils super pertinents pour développer un langage commun, puis ensuite mettre des mots sur ce qu'on ressent.
Exact. Si je propose un petit résumé là, notre épisode sur les avantages de la neuro-inclusion, on a commencé par vous parler de la pénurie de main-d'œuvre qui dure depuis quelques temps, mais qui est vraiment exacerbée en ce moment. Donc, premier avantage de la neuro-inclusion, avoir accès à un bassin de travailleurs. Mélissa, Solène, voulez-vous nous résumer d'autres avantages qu'on a vus aujourd'hui?
Il y en a tellement! Par exemple, en matière de taux de roulement, toujours la même étude de prédisponible et capable et l'Université de Colombie-Britannique, 97% des travailleurs de PDC ont été meilleurs ou aussi bons que les autres en matière de taux de roulement. Donc, c'est un avantage pour l'employeur en matière de pénurie de main-d'œuvre, c'est définitif. Même chose pour la ponctualité, la productivité, la contribution à la marge de profit. L'assiduité également, c'est tout le temps un méga avantage d'avoir des travailleurs neurodivergents, c'est clair.
Oui, puis souvent une crainte que j'ai pu entendre ou lire quand je faisais entre autres mon mémoire, c'était Oui, mais ça coûte cher, la neuroinclusion. On va en parler. Souvent, c'est des petits moyens. J'ai donné un exemple tantôt. Mais en bout de ligne, il y a même des études à l'appui. Ça ne coûte pas plus cher et il n'y a pas un besoin plus grand d'encadrement ou de supervision nécessairement. Des fois, il y a un investissement à mettre peut-être au début en termes de temps ou en termes de soutien. Mais au final, c'est parfois plus rentable d'avoir des employés en situation de handicap ou en situation de neurodivergence parce que justement, il va avoir un engagement plus grand, une fidélité, une assiduité, une productivité qui sur le long terme va être très payante versus le coût des adaptations à mettre en place.
Mais si on regarde, à Pas de Géant, avec son programme Polaris, fait justement une insertion en milieu professionnel. Puis l'employeur disait que la courbe d'apprentissage était plus longue, mais qu'après, les bénéfices venaient tellement racheter tout ça et que, bref, le retour sur investissement était nettement présent. C'est même pas... ça se remet même pas en question.
C'est ça. Puis ce que j'avais aimé, justement, quand j'écoutais Horizon 21, c'était que les entreprises qui étaient présentes puis qui parlaient de leur programme d'inclusion... Puis, OK, ce que je veux dire, je veux pas que ça sonne terrible, mais j'avais aimé entendre ça, c'est que c'est pas philanthropique. Eux autres, ils voient vraiment ça comme un avantage et un bénéfice pour l'organisation. Puis, ils font même pas pour être fins, là. Ils font parce qu'il y a un avantage, mais oui, en même temps, ils veulent être fins puis ils ont une belle culture, là. Fait que je module ce que je dis, mais c'est que en termes de rentabilité, c'est là.
Mais c'est important ce que tu dis, Mélissa, parce que dans les articles que j'ai lus, c'était... ce qui faisait en sorte bien souvent que l'inclusion était une stratégie de performance organisationnelle, c'est à condition que ça soit parmi les priorités et la stratégie de l'organisation. Si c'était un acte de charité, bien, c'était pas authentique et en bout de ligne, ça ne tenait pas et c'est là qu'on voyait les désavantages se pointer le bout du nez. Donc, si je reprends, donc avantage 1, accès à de la main-d'œuvre. Avantage 2, on a dit vraiment côté retour sur investissement. Avantage 3, je pense que c'est l'accès à des forces différentes, variées, une intelligence collective plus complémentaire.
Oui, ben en fait, je voulais préciser que le client aussi trouve ça intéressant. Toujours PDC, ben en fait, il y a 90% qui s'entendent bien avec les clients, qui sont aussi bons ou meilleurs que le reste des employés pour au niveau de la bonne entente. Donc, c'est aussi un avantage auprès des clients. Puis, on parle même pas de la réputation que ça donne puis des avantages que ça donne de ce point de vue-là.
Ben oui, je l'énumérerais donc comme l'avantage 4 parce que, entre autres...
je te devance!
non, tu ne me devances pas du tout. En fait, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça augmente aussi la représentativité de la clientèle. On s'entend que les personnes qui ont une incapacité ou qui sont en situation de handicap, ben elles sont des clients, elles sont des consommateurs, consommatrices. Donc, d'avoir de la représentativité va les attirer vers une organisation. On n'arrête plus les avantages « make it rain ».
Ah, ben oui! Puis, un autre des avantages aussi que je vois dans les communautés, sur les différents groupes Facebook auxquels j'appartiens, tu sais, les entreprises qui mettent de l'avant le fait qu'ils... recherche de la neurodiversité attire comme des aimants ces personnes-là. Fait que,
oui.
Tu sais, par exemple, les communautés de personnes douées, ben ces personnes-là se cherchent des environnements qui vont les comprendre. Puis la minute que quelqu'un sait que quelqu'un s'est trouvé une job en quelque part puis qu'ils ont une politique d'inclusion de la neurodiversité, le monde ne se peut plus, sérieusement.
Exactement. Puis c'est rassurant de savoir que tu vas aller poser ta candidature dans un endroit où tu vas pouvoir en parler. T'as pas toute l'ambiguïté de... qu'est-ce que je peux dire, pas dire, est-ce que ça, je vais peut-être me faire discriminer ou pas. Je dirais que tu y vas un peu plus confiant, puis oui, c'est attirant comme employeur.
Mm-hmm.
C'est même un avantage pour l'entrepreneuriat, le fait qu'il y ait la neurodiversité.
Oui, bien, la plupart des entrepreneurs sont neurodivergents. Là. Ça, par exemple, j'ai pas non plus de chiffres à l'appui, mais on sait qu'il y a beaucoup de TDAH qui se lancent en entrepreneuriat. Oui.
Il y a nous trois.
Ben oui.
Ouais, ben il y a nous trois aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'en entreprise, c'est quand on parlait de miser sur les forces des personnes, ben une personne qui se lance en entrepreneuriat puis qui va bien se connaître, parce que fondamentalement, je pense que pour être successful en entrepreneuriat, il faut bien se connaître, ben ces personnes-là vont reconnaître leurs forces, vont être capables de capitaliser dessus puis d'aller chercher de l'assistance, de la main-d'œuvre, des adjoints, des partenaires qui vont compléter les défis qu'ils ont, puis c'est là qu'ils vont être successful. Puis dans les grands CEO de la planète, il y a beaucoup de neurodivergents.
Hey, je me rends compte qu'on n'a même pas parlé de santé et sécurité, mais c'est parce que c'est souvent une inquiétude que les neurodivergents vont être moins aptes à être en santé et sécurité, puis à faire attention, puis à avoir les accidents de travail. Mais c'est pas vrai, parce que souvent, les neurodivergents vont respecter davantage des règles, puis vont être, c'est un peu cliché, mais de dire, ils vont souvent être tellement reconnaissants d'avoir un emploi qu'ils vont faire attention. Donc, c'est un aspect qui est pas... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet.
Oui, parce que ça avait ressorti dans une étude des ingénieurs en santé et sécurité au travail, comme quoi justement les programmes avec des personnes autistes avaient des taux d'accident quasi nuls. Là.
Effectivement, j'avais lu, en fait, dans plusieurs écrits, là, ça ressort. De toute façon, c'est même pas une seule source.
Oui.
Est-ce qu'on a terminé?
Le temps file. Nous avons terminé notre énumération des quelques avantages de la neuro-inclusion au travail. Il y en aurait d'autres, on en a nommé plusieurs. On a essayé de vous les mettre en évidence pour qu'ils ressortent à travers toute notre discussion. Si on fait une petite intro de la suite, donc qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine, Solène, Mélissa, voulez-vous en parler?
Ouh, plein de choses passionnantes! Évidemment, ça va de soi! Mais on va parler de façon de faire de l'inclusion, de comment ça peut s'inscrire dans les pratiques en ressources humaines. Et puis, ça va être super intéressant, je pense, j'espère.
Comment créer ce beau terreau fertile-là pour toute cette neurodiversité-là, pour qu'elle puisse s'épanouir puis exprimer toutes ces forces-là, tu sais?
Exactement. Donc, un superbe prochain épisode à venir et un autre qui se termine.
Ah!
Oui, et entre-temps, j'inviterais peut-être nos auditeurs là, qui, justement, ont des environnements de travail qui sont inclusifs, peut-être à nous en parler, puis à nous envoyer des témoignages, puis ça peut être en privé, vous pouvez nous écrire en privé si vous voulez pas mettre ça sur la place publique, on comprend ça, de nous parler un peu de comment vous vivez ça, un peu c'est quoi les pratiques qui ont été mises en place, comment est-ce que vous avez vécu le avant, le après, on est curieux, on veut tout savoir ça. Fait qu'écrivez-nous, s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît.
On veut se parler!
Oui, c'est pas du one way, là!
Non, 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 exactement. Mais sur ce, on vous souhaite une excellente journée et semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!
Bye bye!
Merci!
Bye
bye! Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous aviez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.